7 heures. Le journal du 7 heures. Mel Emmanuel.
Premier point de l'actualité de ce mardi 3 octobre. Bonjour. Les députés ivoiriens ont effectué hier lundi leur rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire 2023 en présence du Premier ministre et bien d'autres représentants d'institutions. Le compte-rendu de cette activité dans ce journal. Décès de l'ex-président de la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, la réaction de la plateforme des organisations de la société civile. Hors de la Côte d'Ivoire, nous nous intéressons à cette attaque au nord du Niger dans laquelle 29 soldats ont été tués. Aussi, la une des journaux ivoiriens sera parcourue dans ce journal. Enfin, la hausse du prix de l'essence est le sujet qui est abordé avec Serge Parfait Dioman, expert international en pétrole et énergie. Il est l'invité de la rédaction et répond aux questions de Jean-Claude Comé. Nous démarrons ce journal à l'hémicycle où, après 2 mois de vacances, les députés ont effectué hier leur rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire de cette année. Elle s'est tenue ce lundi 2 octobre 2023 au siège de l'Assemblée nationale au plateau. C'était en présence du Premier ministre ivoirien, chef du gouvernement, du haut représentant du président de la République, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des partenaires au développement. Compte rendu, Jean-Claude Mabéa.
À l'ouverture de cette séance qui marque l'opérationnalisation de l'instauration des deux sessions ordinaires conformément à la révision constitutionnelle que le Parlement réuni en congrès a adoptée le 25 juillet dernier, le président de l'Assemblée nationale a dressé le bilan de la première session ordinaire qui s'est tenue du 3 avril au 25 juillet 2023. Adama Bictogo.
15 projets de loi ont été examinés et adoptés par notre Chambre. Il s'agit du projet de loi de révision constitutionnelle, de 9 projets de loi ordinaires, de 3 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 2 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales.
Il a ensuite décliné les principaux projets de loi qui feront l'objet d'examen au cours de cette seconde session ordinaire de l'année 2023.
Cette session d'octobre, aussi appelée session budgétaire, est consacrée essentiellement à l'examen des lois de finances. Elle vise à assurer un temps suffisant à l'analyse du budget, garantir le respect des délais constitutionnels et s'assurer de la transparence dans la gestion des deniers publics. 18 projets de loi sont soumis à notre appréciation. Il s'agit notamment de 12 projets de loi ordinaires, de 3 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 3 projets de loi d'autorisation de ratification et de conventions internationales.
La Côte d'Ivoire abritera dans le courant du premier semestre de l'année 2024, la 18e conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique, a rappelé le président de l'Assemblée nationale.
Renouvellement des présidents de certaines institutions ivoiriennes et remaniement du gouvernement dans ce mois d'octobre. Ce sont là 2 annonces faites le 28 septembre dernier par le président Alassane Ouattara lors du Conseil des ministres. Comment analyser cette décision du président de la République qui intervient après les dernières élections locales et sénatoriales? Suivons ici l'analyse du professeur Dion Yodé Simplice, enseignant en philosophie politique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
On fait des nominations, on fait un remaniement parce qu'on a une vision. Il y a 2 choses. La première, c'est l'atteinte des objectifs clairement définis, notamment dans ce que le RHDP a appelé la Côte d'Ivoire solidaire. Et de ce point de vue-là, il faut accélérer les réformes parce que 2025 n'est pas loin. Il y a aussi une nécessité certainement de réajuster des politiques à travers l'usage efficient des compétences et des talents. Il y a certainement aussi la nécessité de renouveler pour un souci d'efficacité. Mais le deuxième point de tout ça, en termes d'enjeu, c'est la présidentielle de 2025.
Alors, lorsqu'on est un chef de l'État à mi-mandat, quelles sont les cartes qu'on a en main?
La stratégie, c'est ou bien il rempile et donc réorganise ses troupes et venir convaincre les Ivoiriens en 2025 que j'ai fait du bon travail, je souhaite un autre mandat, ou bien il regarde l'environnement, il se dit « je ne peux plus y aller, alors je prépare quelqu'un pour y aller Mais dans tous les cas de figure, un bon stratège comme Alassane Ouattara regarde l'adversité. L'adversité, ça sera quoi? L'opposition qui peut, malgré la débâcle que nous venons de constater, qui peut se remettre de ces traumatismes, de ces divisions internes pour se mettre d'accord sur un objectif précis, fait partie de RHDP.
Le professeur Dion Yodé Simplice, enseignant en philosophie politique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, joint par Jean-Claude Comé. Le PPACI a justifié, samedi dans une conférence de son porte-parole, sa large défaite aux récentes élections municipales, régionales et sénatoriales par la fraude dont il les affirme avoir été entachée. Mais tout en lui reconnaissant le droit de le dire, l'analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan souhaite que le PPACI en rapporte les preuves auprès du Conseil d'État. Dr Sylvain Nguessan est interrogé par Francis Cassie.
C'est un argument qu'ils avancent. On suppose qu'ils ont des preuves palpables. Je crois que ce sont 13 localités qui ont saisi le Conseil d'État. Et là où, semble-t-il, il y a eu des éléments de preuve, c'est vrai que le Conseil d'État n'a pas encore fini de siéger. Ils ont promis de finir de siéger le 10 octobre. Jusque-là, ils ont rendu des verdicts avec des localités où les élections sont à reprendre. Si j'ai bonne mémoire, 4 localités pour les municipales et une région pour les régionales. À mon humble avis, le PPACI aurait peut-être mieux fait de reverser ces éléments de fraude au Conseil d'État.
Et à cette conférence de presse, le porte-parole, comme vous l'avez indiqué, a signifié que beaucoup de recours contre la fraude ont été adressés au Conseil d'État, une preuve d'après le PPACI.
Oui, bon, plusieurs localités ont saisi le Conseil d'État, mais parmi les preuves qu'ils ont essayé de reverser au Conseil d'État, il y en a qui ne tenaient pas. Voilà, des résultats ont été confirmés. Toutes les 73 requêtes n'ont pas reçu de suite favorable. À mon avis, c'est vrai que la CEI est remise en cause du fait de ses nombreuses requêtes. On pourrait parler du manque de confiance, puisque les requêtes viennent de part et d'autre, aussi bien du camp présidentiel que de l'opposition. Mais il est mieux de saisir le Conseil d'État avec des preuves palpables, au lieu de toujours s'en prendre à la CEI où le PPACI est représenté.
À l'instant, Dr Sylvain Nguessan, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, joint par Francis Cassie. Produit d'exportation pour la campagne principale 2023-2024 de commercialisation du café et du cacao en Côte d'Ivoire, le prix Borchon du kilogramme du café est passé de 750 à 900 francs, soit une hausse de 20%, et celui du cacao de 900 à 1000 francs CFA. C'est ce qu'a annoncé le samedi 30 septembre 2023 le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjumani. C'était en marge de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA. Là-dessus, on écoute la réaction de Camboussier, président de la Fédération des organisations des producteurs de café cacao.
Quand on regarde déjà les ventes anticipées du cacao qui a été fait avant le mois de juin où le cacao a atteint le pic mondial des prix, nous ne devons pas avoir un prix de 1000 francs. Et lorsque nous constatons le prix du café, ça encore c'est extraordinaire parce que lorsque nous partons le jour à l'annonce du prix, nous ne nous attendons pas à ce que le café puisse atteindre 900 francs. Vraiment, nous sommes heureux et c'est une fierté pour nous d'être producteurs de café cacao. Vous savez, le cacao s'est fait par des ventes anticipées. Donc comme la Côte d'Ivoire a un volume de plus de 2 millions de tonnes, vous voyez déjà en début d'année, à partir de janvier, nous commençons à vendre pour préparer la campagne future. Donc, avant que ce prix n'atteigne le prix record en juin, la Côte d'Ivoire avait déjà vendu une grande partie qui n'était pas sous ce prix-là. Donc, ce qui a fait que nous, notre moyenne ne pouvait pas atteindre les 1200 comme ça a été au Ghana. C'est les producteurs qui sont concernés et c'est les mêmes producteurs qui sont les responsables des acheteurs des coopératives. Donc actuellement, notre mission serait de parcourir tous les hameaux, de mettre en place un dispositif, surtout à travers nos délégués, pour informer les producteurs au maximum pour que ce prix-là soit respecté. Parce que si nous, en tant qu'acteurs qui sommes concernés, nous ne nous impliquons pas, l'État ne peut pas avoir ses agents dans tous les campements. Par contre, nous autres, nous sommes représentés dans tous les campements et hameaux et nous allons prendre notre destin en main pour que ce prix soit respecté sur le terrain.
Décès de l'ancien président de la commission électorale indépendante entre février 2010 et octobre 2019, l'ex-député a tiré sa révérence le samedi 30 septembre 2023 à Paris en France à l'âge de 80 ans. Ex-ministre ivoirien des Affaires étrangères, Youssouf Bakayoko se faisait très discret depuis son départ de la commission électorale indépendante. Le défunt était également membre du PDCI RDA. Quelle est l'image que gardent les organisations de la société civile de cet homme politique et diplomate ivoirien? Écoutons la réaction de Drissa Soumala, le coordonnateur général de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections Côte d'Ivoire, POECI.
Nous gardons une image d'une personne engagée, c'est quelqu'un qui a dirigé, qui a fait son travail à la tête de la commission électorale indépendante. Nous, c'est étonnant qu'il a fait un travail remarquable à la tête de cette institution. Aujourd'hui, c'est un regret. Certes, il y a eu la violence en 2010, mais nous pensons que tout cela n'est pas pour le compte de cet homme qui a dirigé la commission électorale indépendante, parce que les acteurs politiques aussi qui sont intervenus dans ce processus-là. Donc, nous retenons effectivement que c'est quelqu'un qui a fait du travail à la tête de cette commission, parce que sortir d'une crise et puis diriger une commission électorale indépendante, c'est pas une chose aisée. C'est vrai que la commission électorale indépendante peut avoir certaines défaillances. Mais tout ce qui s'est passé, 3000 morts et après, il y a eu des violences, mais cela n'est pas forcément du fait de la commission électorale indépendante elle seule. Pour nous, la commission électorale indépendante, elle est tiraillée par les acteurs politiques.
Drissa Soulama, coordonnateur général de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections Côte d'Ivoire, POECI, et avant lui, Camboussier, ont tous deux été joints par Marthe Kakou. Ça se passe hors de chez nous. Au Niger, 29 soldats ont été tués lors d'une attaque dans l'ouest du pays, a annoncé le ministère de la Défense dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 octobre. Un détachement des forces de sécurité a fait l'objet d'une attaque complexe au nord-ouest de Tabatol, combinant l'utilisation d'engins explosifs improvisés et de véhicules kamikazes par plus d'une centaine de terroristes, indique un communiqué lu à la télévision nationale. Le bilan provisoire de cette attaque est le suivant. Côté ami, 29 soldats sont tombés en héros, 2 ont été gravement blessés, poursuit le texte qui précise que plusieurs dizaines de terroristes ont été tués, notant que c'est l'attaque la plus meurtrière depuis la prise du pouvoir des militaires en fin juillet dans ce pays. Retour en Côte d'Ivoire dans les studios de Radio de la Paix avec Francis Cassi pour la revue des titres des journaux ivoiriens. Bonjour Francis Cassi.
Bonjour Emmanuel Amani. Bonjour à tous. À en croire la une de vos journaux, les regards sont tournés vers le Conseil d'État pour les décisions qu'il doit rendre aujourd'hui quant au contentieux sur des résultats électoraux de certaines localités jugées importantes par rapport aux candidats concernés. Élections locales 2023, recours en annulation, le Conseil d'État à l'épreuve du Cocody, plateau Youpougon, ce matin. Titre à ce propos, dernière heure monde. Pareil pour l'Inter en écho. Municipal et régional des confidences sur la reprise du scrutin, les cas de Cocody, Youpougon, Plateau, Trècheville, tranché aujourd'hui. L'actualité aussi de ce jour, à la une de vos journaux, concerne l'Assemblée nationale. Et à son sujet, le mandat indique, Assemblée nationale, après 2 mois de vacances, les parlementaires font leur rentrée des classes. Ce qui fait dire Fraternité Matin ceci. Assemblée nationale, ouverture hier de la 2e session ordinaire. C'est 18 projets de loi sur la table des députés, ainsi que le quotidien Les Soirs Ivoiriens. Assemblée nationale, Big Togo donne le top départ de la session budgétaire. Certains tabloïds s'intéressent au ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Cadre Le Bélier, qui le concernant, tient ce commentaire. Tribalisme, exclusion, fraude, Thiam Augustin met le feu au RHDP. Avant que le Nouveau Réveil ne le cite indiquant ceci. Augustin Thiam, dans une interview inédite à Notre Voix d'hier, il ne sera jamais demandé à un Koulibaly d'aider un Kouadio à être maire à Korogo. La vie chère est un autre sujet dont parlent aussi vos quotidiens, notamment l'Intelligent d'Abidjan avec ce titre, la cherté de la vie vue par les députés, pendant que le Nouveau Réveil, lui, dit « hausse du prix du riz et du carburant en 1 mois, souffrance programmée des Ivoiriens ». Enfin, terminons notre revue des titres des journaux de ce 3 septembre avec la mort en France samedi passé de l'ex-président de la CEI. Là-dessus, Fraternité Matin note, décès de Youssouf Bakayoko, hommage à un homme de rigueur et un vrai patriote. Quand pour sa part, le sursaut indique que, par rapport à la présidentielle de 2010, Youssouf Bakayoko est mort avec des secrets. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci Francis Cassis, vous serez à nouveau en notre compagnie dans le journal de 8h pour le même exercice. Prix du carburant en Côte d'Ivoire, depuis le 1er octobre 2023, les prix du super samplon et du gasoil connaissent une hausse de 60 francs à la pompe, passant donc à 875 francs le litre pour le super et 715 francs le litre pour le gasoil. Une situation expliquant qui est une répercussion des prix internationaux en matière de produits pétroliers. Comment expliquer cette hausse des coûts du baril du pétrole et quelles sont les stratégies possibles pour les pays, notamment consommateurs, pour réduire l'impact de cette hausse sur leurs économies? Invité de la rédaction, Serge Parfait Dioman, expert international en pétrole et énergie, apporte des éléments de réponse dans un entretien conduit par Jean-Claude Comé.
Serge Parfait Dioman, bonjour. Le marché des hydrocarbures note une hausse progressive du prix du baril de pétrole au niveau international. Pourquoi cette hausse?
Toute hausse du prix du baril sur le marché international est motivée par des facteurs endogènes et aussi liés à des facteurs exogènes. Au niveau des facteurs endogènes liés au corps du métier, l'on peut par exemple citer le fait que l'activité pétrolière elle-même devient onéreuse et c'est un coût qui est évidemment reporté d'année en année sur le coût du pétrole brut qui est cédé en vente. Concernant les facteurs exogènes, ce sont des aléas extérieurs qui viennent influer sur le prix. Par exemple, nous avons des facteurs qui sont saisonniers. Prenons le cas par exemple de la période d'hiver en Europe. C'est une période où il fait très froid et donc certains pays ont besoin de plus de produits pétroliers pour se chauffer entre autres. Cela engendre évidemment une demande supplémentaire et cette demande fait que les prix partent à la hausse du fait qu'il y a une demande qui est abondante sur ce produit. Mais nous avons par exemple aussi des facteurs exogènes qui ne sont pas saisonniers mais qui sont opportunistes. Par exemple, quand nous avons des aléas conflictuels. Quand nous avons des pays qui sont en conflit dans certaines régions productrices d'or noir, lorsqu'il y a des conflits, ce sont des situations, des aléas conflictuels qui affolent les marchés. Parce que l'on peut craindre qu'il puisse avoir une récession de pétrole brut sur le marché et donc les traders, les acheteurs, les compagnies commencent à faire des approvisionnements et cet afflux de demande crée une hausse sur les prix du marché.
Comment des conflits dans le monde impactent-ils les cours mondiaux des produits pétroliers?
Pour comprendre comment les conflits dans le monde peuvent impacter le prix du baril, on peut prendre juste deux exemples pour mieux comprendre. Prenons par exemple le cas de la guerre russo-ukrainienne. Nous savons que la Russie, par exemple, est une grande productrice d'or noir, que ce soit du pétrole ou du gaz. Et donc, lorsqu'il y a un conflit, par exemple, en Russie, et qu'on met un embargo sur ce pays, ça veut dire que nous nous mettons dans une situation de difficulté d'approvisionnement venant de la part de la Russie. Et donc, ce manque de produits sur le marché que devrait délivrer la Russie crée une récession sur la disponibilité de pétrole brut et donc une hausse des prix parce qu'il en manque. Deuxième lieu, ça peut être par exemple le conflit ouvert en ce moment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous savons que l'Azerbaïdjan est par exemple le pays qui produit le pétrole brut le plus riche au monde. Ce pétrole brut s'appelle l'Azeri. Il est très prisé et même il coûte plus cher que le Brent dont on parle souvent. Et donc, quand il y a un conflit ouvert aujourd'hui, comme c'est le cas, il est évident que les marchés vont s'affoler parce que les gens vont se dire que le pétrole azéri va manquer. Et donc, cet affolement crée une demande des gens qui vont faire des provisions en anticipation. Et ces provisions en anticipation vont engendrer une hausse des prix du baril. Mais dans tous les cas, lorsque ces hausses s'opèrent, cela va engendrer aussi des tensions sur le prix des convoyeurs. Quand il y a un conflit dans une zone, donc les cargos qui sont chargés de faire le transport du pétrole brut, par exemple, seront obligés de faire des détours. Et ces détours, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans une zone conflictuelle, vont engendrer des coûts supplémentaires sur le transport. Et tout cela va se répercuter directement sur le prix du pétrole brut qui est cédé.
En quoi la décision des pays producteurs, notamment la Russie et l'Arabie Saoudite, influe-t-elle sur les cours mondiaux?
Le schéma est que nous avons un embargo qui est mis sur la Russie. La Russie, dans un second temps, va chercher des débouchés, va en trouver par exemple en Arabie Saoudite. La Russie va donc réduire sa production et va trouver un marché vers l'Arabie Saoudite qui va l'acheter à un prix décoté. Mais en achetant à un prix décoté, l'Arabie Saoudite ne peut pas acheter le pétrole russe et continuer à produire la même valeur qu'elle était. Donc elle aussi, elle va baisser sa production. Et cette baisse cumulée entre l'Arabie Saoudite et la Russie, c'est quand même quelque chose qui se chiffre à plus de 2 millions de barils par jour. C'est une quantité énorme et ça influe sur le marché.
Et puis, en quoi le système de soutien des prix décidé notamment par la Côte d'Ivoire permet de juguler le prix de vente à la pompe?
C'est un système de subvention d'ordre social qu'il faut comprendre, mais il ne peut pas perdurer parce qu'on ne peut pas subventionner une matière dont les prix sont en train de s'envoler sur les places de marché international. Donc c'est une situation qui ne peut pas perdurer et qui appelle d'office une action de répercussion comme dans certains pays ou une action d'ajustement des prix qui est l'option choisie pour la Côte d'Ivoire pour ne pas que le consommateur ressente en direct les fluctuations qui se passent sur les places de marché international. Mais dans tous les cas, le blocage des prix ne peut plus perdurer au risque de voir s'écrouler le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire.
Serge Parfait Diomane, expert international des questions pétrolières et énergétiques, je vous remercie.
L'invité de la rédaction, Serge Parfait Diomane, expert international en pétrole et énergie, était en entretien avec Jean-Claude Comé sur la question de la hausse des prix du carburant. Voilà qui met un terme à notre journal, le rappel des titres. Les députés ivoiriens ont effectué hier lundi leur rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire 2023 en présence du Premier ministre et bien d'autres représentants d'institutions. Décès de l'ex-président de la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Vous avez eu dans ce journal la réaction de la plateforme des organisations de la société civile. Et puis, hors de la Côte d'Ivoire, nous parlions de cette attaque au nord-ouest du Niger, dans laquelle 29 soldats ont été tués. Fin de ce journal, prochain rendez-vous à 8h.
Radio de la Paix. L'info juste et sans passion.